On voit effectivement au travers de l'exemple d'Hérouville-Saint-Clair que le macronisme est un objet nouveau en matière politique. Et puisque nous avons la chance d'avoir non pas un mais deux politistes dans ce studio en la personne de Céline Braconnier qui est professeure de sciences politiques et directrice de Sciences Po Saint-Germain-en-Laye et d'Antoine Jardin, bonjour, qui est spécialiste notamment de l'analyse du vote dans les quartiers populaires. Antoine Jardin, le macronisme, est-ce véritablement ce centre que certains appelaient de leur vœu en France depuis longtemps?
Bon, déjà, je ne sais pas si on peut dire qu'il existe quelque chose comme le macronisme. Il y a la candidature d'Emmanuel Macron qui constitue la situation qu'on observe aujourd'hui. Et Emmanuel Macron ne prend pas un positionnement qui est un positionnement centriste classique. Parce qu'il s'inscrit plutôt dans la continuité et le prolongement de ce qu'a été l'action de François Hollande en disant ce n'est pas allé assez loin et il faut trouver des compromis plus larges avec une partie du centre droit. Donc c'est une doctrine un petit peu différente du centre traditionnel français qui est plutôt catholique, plutôt ancré à droite, etc. Et je crois que
Donc là, ça serait un centre-gauche?
C'est un peu ce qu'il tente de faire, mais il n'est pas non plus dans la ligne du centre-gauche historique, qui est celui du Parti radical de gauche, par exemple, qui est plutôt sur les thématiques sociétales, comme l'euthanasie, comme la question du cannabis, etc. Là, il le fait plutôt sur des questions économiques, où il va chercher des partenariats avec des libéraux, qui ne sont pas des conservateurs à droite, mais qui sont considérés comme étant compatibles avec sa doctrine, ce qu'il appelle le progressisme.
Bon, alors donc, en tout cas, s'il s'agit d'une nouvelle forme de centre, centre droit, centre gauche, est-ce le centre, encore une fois, qui a été bien souvent promu, je pense à Jean-François Cannes qui a construit une partie de sa carrière sur la promotion du centre, est-ce que c'est enfin l'avènement de ce centre ?
Ça paraît peu probable parce qu'il n'y a pas vraiment de structuration derrière. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, il est fort des faiblesses de ses adversaires. Il est fort de la démobilisation de la gauche socialiste, cette division dans la primaire qui a été très âpre. Il est fort de la fragmentation de la gauche radicale avec Jean-Luc Mélenchon qui ne parvient pas à trouver d'accord avec Benoît Hamon, si on veut que l'FC et Benoît Hamon dans cette rotation. Et il est fort de la faiblesse de François Fillon, qui est un candidat qui a dominé les autres dans la primaire de la droite, mais qui est considérablement affaibli par les affaires qui le concernent aujourd'hui.
Donc vous voulez dire que c'est un succès d'opportunité ?
Oui, assez largement. Je pense que la structure des opportunités est très favorable aujourd'hui pour Emmanuel Macron et le fait qu'il ait eu un positionnement un peu ambivalent lui a permis d'attirer des personnes, et votre reportage le montre, qui viennent d'horizons assez différents.
Ce qui est quand même une situation assez inédite, ce que décrivait Frédéric Seitz, le fait que finalement les soutiens de Macron retrouvent leurs ennemis politiques autour de la table.
Oui, alors ça c'est assez inédit, mais je crois que ce qui fait en fait la possibilité de cette candidature, c'est qu'Emmanuel Macron a su construire une organisation politique avec des ressources en personnel, en financière, etc., qui sont suffisamment importantes pour aller concurrencer des grands partis dans une campagne présidentielle. Et ça, c'est quand même plutôt quelque chose de nouveau. Jusqu'à maintenant, on n'avait pas de candidats centristes qui avaient véritablement la force en eux-mêmes d'aller dans ces confrontations.
Est-ce que ça peut tenir ?
Ça peut tenir en tout cas jusqu'à la présidentielle.
Oui, mais je veux dire, après, si d'aventure ce candidat a été élu, est-ce qu'on peut imaginer que les législatives...
C'est toute la question, parce que vraisemblablement l'élection d'Emmanuel Macron ne trancherait pas la question des législatives, et En Marche a beaucoup de mal à définir qui seront ses candidats dans les différentes zones du territoire où les élections législatives, parce que il faudra bien constituer une coalition gouvernementale, et ça c'est quelque chose qui peut être difficile et qui peut être particulièrement instable. Donc la question de savoir... si on gagne une campagne électorale, c'est pas la même chose que de structurer un système partisan sur le long terme. Toujours est-il qu'il y a des probabilités assez fortes de voir le système partisan français basculer dans les années qui viennent, parce que la leçon de cette présidentielle, c'est quand même que les Républicains à droite et le Parti Socialiste à gauche sont en situation de faiblesse comme ils l'auraient rarement été au cours des années écoulées.
Basculer dans une nouvelle forme ou basculer dans l'instabilité pour le système partisan si Emmanuel Macron, ça fait beaucoup de si, mais si Emmanuel Macron était élu, si celui-ci devait chercher une majorité législative?
Il y a peu de chances qu'on bascule véritablement vers l'instabilité parce que les systèmes partisans ils finissent par trouver une forme d'agencement à moyen terme, c'est quelque chose qui peut durer pendant quelques années, pendant quelques élections. Quand il y a un réalignement électoral, on dit il y a une élection de rupture et puis après il y a des élections de confirmation qui vont stabiliser la nouvelle structure des partis politiques. On n'en est pas encore là aujourd'hui en France, mais c'est quelque chose qui apparaît comme possible, notamment non pas seulement de la force de Emmanuel Macron, mais de celle du Front National qui est en train de dominer la droite républicaine dans l'élection de 2017.
Céline Braconnier, Emmanuel Macron, il représente sur le plan de la sociologie politique une offre qui est dirigée vers un milieu particulier ?
Alors, de la même façon que le reportage a très bien montré le fait que c'était une candidature qui agrégeait des soutiens venus de différents horizons et que ça suffisait pas à former un collectif, la candidature d'Emmanuel Macron semble agréger sur elle des populations qui viennent de différentes orientations politiques, mais qui sont quand même assez marquées par un fort niveau de diplôme, des ressources économiques plutôt importantes. En gros, Emmanuel Macron parvient à séduire l'électorat le moins populaire de la gauche. Mmh. Ah, là, pour le coup, hein, on sait très bien que la sociologie, par exemple, du Parti Socialiste, de l'électorat du Parti Socialiste, a beaucoup évolué au cours des 15 dernières années.
Et qu'il est
beaucoup moins populaire.
On l'a dit, de plus en plus urbain, aisé pour l'électorat.
Exactement, les centres-villes embourgeoisées qui votent depuis quelques élections assez largement au profit du parti socialiste, des candidats du Parti Socialiste, et bien c'est cette partie de l'électorat du Parti Socialiste qui semble se réorienter aujourd'hui vers la candidature d'Emmanuel Macron, qui semble donc agréger des électeurs qui viennent d'orientations politiques différentes, mais qui socialement ont quand même des points communs, puisque à droite, l'électorat de droite qui rejoint Emmanuel Macron et un électorat favorable au libéralisme et privilégié au plan économique et très diplômé.
Et alors donc si on fait une comparaison entre les électeurs potentiels d'Emmanuel Macron et les électeurs potentiels de Marine Le Pen, Céline Braconnier?
Alors là, les différentes enquêtes dont on dispose dessinent une France très clivée socialement. Là, on a vraiment Marine Le Pen qui attire les voix d'une partie des milieux populaires, hein, qui notamment dans les milieux ouvriers, semble avoir franchi des seuils qui n'étaient pas franchis encore en 2012. Et Emmanuel Macron, qui à l'inverse, apparaît comme le candidat de la France privilégié.
Antoine Jardin, il y a en sociologie politique de longues discussions pour savoir s'il y a une spécificité ouvriériste du vote FN. Vous qui avez particulièrement étudié les quartiers populaires, y a-t-il un lien étroit entre ces quartiers populaires et le vote Front National ?
Alors, non, il n'y a pas de lien particulier entre ces quartiers populaires et le vote Front National, pour une raison simple, c'est que ce qu'on appelle les quartiers populaires ne sont plus des quartiers ouvriers, ne sont pas des quartiers ouvriers dans leur sociologie actuelle. C'est des quartiers qui sont d'abord touchés par le chômage, donc par l'éloignement du monde du travail et par des formes de travail très fragmentées. Et ce sont des quartiers dans lesquels une partie importante de la population, 60-65%, ont un rapport familial direct à l'immigration et donc sont en opposition au Front National du fait de leur histoire familiale ou personnelle. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de lien de surreprésentation du vote Front National dans le monde ouvrier. Ça, on l'observe, mais on ne l'observe pas dans les quartiers les plus populaires. On l'observe plutôt dans les zones rurales et périurbaines, mais il ne faut pas non plus basculer dans l'image d'Épinal selon laquelle tous les ouvriers voteraient pour le Front National et aucun cadre ne voterait pour le FN. C'est pas vrai. Il y a toujours un vote d'une partie de la bourgeoisie en faveur de l'extrême droite, et c'est d'ailleurs de là qu'elle produit l'essentiel de ses cadres intermédiaires et de ses dirigeants. Et il y a en même temps une défiance assez forte dans le milieu populaire vis-à-vis du FN, parce que il y a aussi beaucoup d'électeurs du monde populaire qui ne votent pas. Et ça reste quand même un enjeu tout à fait important dans les élections présidentielles.
Le vote populaire, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il recouvre en France, Antoine Jardin ? Est-ce qu'il est possible de faire une sociologie électorale du vote populaire ?
Alors, c'est possible de la faire, mais pas en une seule phrase. Puisqu'il y a, comme vous l'avez dit, des mondes populaires qui sont très fragmentés. Alors, ils peuvent être fragmentés géographiquement, de fait de traditions historiques, etc. Les ouvriers du Finistère ne votent pas de la même façon que les ouvriers en Alsace. Il y a des divisions politiques entre un monde ouvrier de gauche, historiquement, et un monde ouvrier plutôt de droite. Et puis, il y a des divisions liées au rapport à l'immigration que j'évoquais tout à l'heure. Alors, la division politique me semble importante, parce que ce qu'on voit depuis 2011, élection après élection, c'est un décrochage du monde populaire de droite vers le Front National. Et la grande caractéristique qui marque l'évolution de la droite française depuis le milieu du mandat de Nicolas Sarkozy, c'est le basculement de la part la plus populaire de cet électorat vers le FN, et c'est quelque chose qui s'ancre au cours du temps, et qui c'est quelque chose d'assez marquant, c'est renforcé alors que la droite était dans l'opposition. Mmh. Même après la défaite de Nicolas Sarkozy, l'UMP et les Républicains ne sont pas parvenus à renouer avec leur base électorale populaire qui a continué à glisser vers le FN aux élections européennes et aux élections régionales de 2014 et 2015.
Est-ce que l'on peut imaginer qu'avec François Fillon, la tendance se renforce, s'inverse ?
ça devrait plutôt se renforcer sur la base de la sociologie du vote de François Fillon, qui est un électorat très situé au cœur de la droite conservatrice, mais qui donc a du mal à s'adresser à des classes populaires qui avaient été séduites de façon assez conjoncturelle par Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2010. Et on voit d'ailleurs l'inquiétude d'élus républicains face à cette situation, et je pense notamment au discours de Christian Estrosi, qui lui a été en confrontation très très forte avec le Front National en PACA, et on voit que pour beaucoup d'élus de droite de la région, c'est vraiment un souci important.
Mais alors, il y a une sorte de martingale politique qui a été utilisée par Donald Trump au moment du Brexit, où plus on était anti-système, plus on considérait que les tenants légitimes de la société était illégitime, plus on pouvait conquérir des voix populaires. Est-ce que d'abord vous êtes d'accord avec cette analyse, et est-ce que cette analyse pourrait là aussi fonctionner en France, d'où la raison pour laquelle beaucoup de candidats, y compris François Fillon aujourd'hui, se présentent comme étant anti-système, Antoine Jardin?
Je ne partage pas tellement l'analyse. Ce que fait ce discours anti-système, c'est qu'il cherche à capter une défiance qui est préexistante. Ce n'est pas le Front National qui crée la défiance politique en France. C'est plutôt la crise de la représentation démocratique et du système partisan en général qui fait que des électeurs ne trouvent pas d'offres politiques correspondant à leurs attentes et voient dans le FN quelque chose qui peut, dans certains cas, apparaître comme un moyen de renverser la table et de passer à autre chose. Il ne faut pas oublier que la grande caractéristique idéologique qui fait voter pour le FN, c'est être hostile à l'immigration et à l'islam de façon plus générale dans les dernières années, et que ça marque quand même idéologiquement de façon très particulière l'électorat d'extrême droite, mais ça rentre en écho avec la croyance d'une partie des mondes populaires, et ça explique son ancrage sur le long terme.
Mais quand François Fillon dit, par exemple, plus il y aura d'opposition contre moi, plus on utilisera des cabinets noirs, différentes officines pour essayer de me tuer, eh bien plus ça renforcera la volonté de mes électeurs de voter pour moi. Est-ce que vous pensez que c'est une règle ou bien c'est un vœu pieux ?
Non, je crois que c'est plutôt un vœu pieux, mais la circonstance actuelle, c'est quand même que plus François Fillon est faible, plus le Front National sera fort, mais que la faiblesse de François Fillon, elle vient de sa trajectoire et de sa campagne en interne, plus qu'elle ne vient des éléments extérieurs. Donc je crois que c'est ça la situation d'aujourd'hui.
Pour ce qui concerne les candidats de gauche, Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon, quel est leur soutien, quels sont leurs soutiens populaires à ces candidats ?
Pas énormément, en vérité, parce que il y a deux éléments qui viennent en difficulté par rapport à ça. C'est que Benoît Hamon n'est pas extrêmement connu, et donc il n'est pas très bien connu dans les milieux populaires. Et c'est un peu la faiblesse du Parti Socialiste de ne pas avoir eu d'offre électorale stable sur le long terme, alors que des partis comme le Front National présentent tout le temps quelqu'un qui s'appelle Le Pen. Donc forcément, il y a un ancrage dans la connaissance des milieux populaires les moins politisés qui est différent. Et donc Benoît Hamon a du mal à aller au contact de ces populations, d'autant plus qu'il est idéologiquement avec des propositions qui sont assez décalées par rapport aux attentes des milieux populaires. Il parle plutôt de revenu universel, de fin du travail, qu'il ne parle de lutte contre les délocalisations et de questions de pouvoir d'achat. Donc là, il y a quand même un hiatus, une difficulté, à mon avis, à résorber. Et Jean-Luc Mélenchon, sa caractéristique, c'est plutôt d'attirer les classes moyennes et les classes supérieures du public, historiquement. Et il a plutôt, même s'il prend un positionnement qui est celui historiquement du PCF, il a plutôt du mal à attirer durablement les catégories les plus populaire de l'électorat.
Pourquoi la notoriété jouerait-elle particulièrement pour les classes populaires, sachant qu'Emmanuel Macron, il y a peu, était strictement inconnu?
Parce que Emmanuel Macron attire pas les classes populaires. Et donc, c'est pas sa visibilité médiatique qui fait son attrait pour les classes populaires.
Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi les classes populaires auraient-elles particulièrement une inclinaison à choisir se reporter sur quelqu'un de connu?
Parce qu'il faut déjà connaître le candidat pour voter pour lui. Et ce qu'on a pu voir dans des élections comme celle de 2012, c'est que à quelques semaines du scrutin, une bonne partie des électeurs les plus précaires ne connaissaient pas François Hollande, ne connaissaient pas le candidat de la gauche, parce que c'était pas quelqu'un qu'on avait l'habitude de voir au premier poste dans le débat politique français. Et donc il faut essayer de stabiliser l'offre politique si on veut pouvoir séduire l'électorat sur le long terme.
Ce qui signifie pour votre analyse de la gauche que le discours consistant à dire que le Parti Socialiste s'est coupé des classes populaires demeure en grande partie vrai selon vous ?
Mais il s'est coupé d'abord par l'exercice du pouvoir et par le fait que François Hollande n'est pas en situation de se représenter et que sur ce qui avait été les attentes fortes...
On disait avant François Hollande.
C'est vrai, sauf qu'entre 2007 et 2012, on a quand même plutôt un réalignement des groupes populaires envers la gauche, notamment dans les quartiers populaires, et que c'est quelque chose qui s'est désagrégé très rapidement dans le quinquennat, et dès les élections européennes de 2014, la gauche fait un très mauvais score au regard des scores qu'elle avait obtenus en 2012. Donc elle n'a pas réussi à fidéliser un électorat qu'elle avait pourtant touché en 2012, et c'est ça qui, à mon avis, doit lui poser question.
poser question avec une possibilité d'y remédier.
Qu'est-ce qui s'est passé dans la politique qui a été conduite par le gouvernement de François Hollande de 2012 à 2014 pour provoquer ce désaveu? Et qu'est-ce qu'il faut penser en termes de structure d'organisation politique, la forme des partis, l'action des partis pour capter un électorat qui aujourd'hui plus dans une logique de fidélité partisane stable envers les candidats et les partis de gauche?
Oui, mais alors ça, Jean-Luc Mélenchon ne peut pas en être tenu responsable. Pourquoi dans ce cas-là n'attire-t-il pas ces classes populaires qui seraient déçues par l'exercice du pouvoir du Parti socialiste de François Hollande?
Il en a tiré une partie, si on regarde les enquêtes, puisque vraisemblablement, il est plutôt sur des niveaux relativement élevés, y compris au regard de sa campagne de 2012. Et je crois quand même que Jean-Luc Mélenchon parle aussi des éléments qui sont assez techniques. Il parle des questions européennes, il parle des enjeux de transformation du système européen. Et c'est quelque chose qui peut être assez éloigné des préoccupations quotidiennes des électeurs. Donc, c'est pas forcément facile de suivre Jean-Luc Mélenchon sur un discours de 2 heures comme à Rennes.
Votre analyse, Céline Braconnier?
Je partage à peu près ce que vient de dire Antoine Jardin. Je nuancerai sur le désaveu hein, des milieux populaires qu'on a enregistré au cours des élections intermédiaires, dans la mesure où c'est un classique. Il n'y a rien de nouveau à ce qu'on ait du mal quand on gouverne à mobiliser son électorat. Voilà, donc c'est peut-être un peu plus marqué que d'habitude. Mais la déception, elle est du côté de ceux qui ont participé à mettre en place un président qui déçoit forcément parce qu'il a créé des attentes. Donc moi, je suis un peu moins pessimiste sur la capacité de la gauche à remobiliser un électorat populaire.
Aux États-Unis, on a l'exemple de Donald Trump qui a été élu en partie sur les milieux populaires, pas uniquement. Il a été également élu grâce à des milieux, donc des classes moyennes blanches, sans lesquelles il n'aurait pas été élu. Mais enfin, on a la personnalité d'un milliardaire avec un gouvernement, on le voit aujourd'hui, qui est majoritairement composé du Dow Jones, de la bourse américaine. Et on a un gouvernement qui a été élu grâce à des voix populaires. Est-ce que le même phénomène est reproductible en France, Antoine Jardin?
Oui, c'est un petit peu différent parce que si on regarde bien l'élection américaine, Donald Trump arrive avec à peu près 3 millions de voix de moins qu'Hillary Clinton. Simplement, il réussit un tour de force stratégique en changeant la structure de la carte électorale et en gagnant des États que les démocrates n'envisageaient même pas comme étant en jeu. On parle du Wisconsin, de l'Iowa, du Michigan. Et donc, c'est plutôt la finesse de la stratégie électorale de Donald Trump qui lui a permis de l'emporter que véritablement la largeur de sa base électorale.
Mais il y a une vieille théorie aux États-Unis avec laquelle vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, celle formulée par Thomas Frank qui dit en substance « les pauvres votent à droite ». Est-ce que cela est vrai également pour certains pauvres français, Antoine Jardin?
C'est trop rapide de dire que les pauvres votent à droite.
Si on prend ce que dit Thomas Frank.
Si on prend la population noire américaine, elle vote à 94% pour les démocrates et c'est le groupe le plus pauvre de la population. C'est le cas également pour plus de la moitié des hispaniques. Simplement, le clivage ethnique est aux États-Unis tellement fort qu'une partie de la classe populaire blanche vote contre les autres minorités ethniques et c'est ça qui crée cette configuration un peu particulière. On n'est pas à l'abri de voir en France, dans un contexte de violence, d'attentats, etc., ce type de prisme de polarisation se mettre en place.